le magazine des Nations Unies.
Invité par le gouvernement congolais en RDC, la haut-commissaire aux droits de l'homme a commencé son périple en Ituri. Michelle Bachelet a bouclé sa mission vendredi à Bunia, où elle a vu notamment des déplacés amputés de certains organes et d'autres violés pendant les conflits armés à Djougou. Gestion durable des forêts en RDC. Tout mettre en œuvre pour reconstituer le couvert forestier jusqu'à 65% au minimum. C'est l'objectif que s'assigne le Fonds national RED+. Fonared a organisé cette semaine à Kinshasa le premier forum national avec 250 participants, dont certaines agences onusiennes et la Banque mondiale. Dossier à suivre dans cette édition. Et puis, les inégalités dans le monde se creusent davantage. 1% de personnes les plus riches possèdent deux fois plus que les richesses cumulées de 6,9 milliards de personnes dans le monde. 42% des femmes sont particulièrement discriminées. Révélation de Oxfam dans son dernier rapport annuel publié en Suisse. Nous en parlons avec la directrice résidente de cette ONG internationale dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche à tous. C'est par Bunia que la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a commencé le jeudi 23 janvier sa mission de travail en RDC. C'est à l'invitation des autorités congolaises. Et le vendredi, Madame Michelle Bachelet a bouclé sa visite en Ituri, où elle a rencontré notamment les différents acteurs des conflits Emalendu. La diplomate onusienne a vu également des femmes et des enfants victimes des atrocités de Djougou. Avant de quitter Bunia, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a tenu une conférence de presse. Ses propos ont été recueillis par Isaac Remoyope.
Je suis ici à l'invitation du gouvernement pour m'inquérir de l'état de la situation des droits de l'homme dans le pays et échanger avec les autorités sur les mesures prises ou à prendre pour protéger et promouvoir les droits humains en Démocratique République du Congo. Durant mon séjour à Bunia, j'ai eu des entretiens avec le ministre des droits humains et les autorités provinciales. Je suis vraiment ici pour écouter tout le monde afin de mieux comprendre la situation et voir dans quelle mesure mon bureau et l'ensemble des Nations Unies, du système des Nations Unies, pourront contribuer à la paix, à la stabilité, au développement et à la jouissance de tous les droits de l'homme par tous les Congolais.
Tout faire pour stopper la dégradation des forêts congolaises, c'est l'une des conclusions auxquelles sont arrivés les participants au premier forum national RED+, travaux tenus à Kinshasa du 22 au 23 janvier 2020. Honoré Missenga Kalala pour le reportage.
C'est sous le patronage du ministère des Finances que le premier forum national du Fonared a eu lieu pendant deux jours, du 22 au 23 janvier. Les 250 participants représentant toutes les parties concernées par la mise en œuvre des projets relatifs à la gestion durable des forêts congolaises ont échangé et partagé les expériences ainsi que les leçons tirées des trois premières années du Fonds national RED+. L'on retiendra notamment de ces échanges que malgré les efforts déployés dans le cadre des programmes intégrés, la RDC perd chaque année des milliers d'hectares de ses forêts. Victor Kabengile, coordonnateur adjoint du Fonared.
La RDC perd chaque jour des forêts. On peut le dire, on ne doit pas se le cacher. Entre la période 1990 et 2010, sur 20 ans à peu près, la RDC a perdu plus de 10 millions d'hectares de forêt. C'est énorme.
Le sud Ubangi, à l'instar de toutes les provinces de l'ex-Grand Équateur et l'ex-Oriental ciblées par les programmes Fonared, a pris une part active aux travaux. Son ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural, Nico Motongo Kengo, a donné lui aussi de la voix.
La province du sud Ubangi, c'est une grande province qui a connu de déforestation liée notamment au déplacement des réfugiés émanant de la guerre en République centrafricaine. Ils ont détruit l'écosystème, reboisé pour nous dans la partie notamment de Boyabo, partie de Molé, dans les territoires de Libengué. Ça vaut son pesant d'or, mais pour le faire, il faut le concours des bailleurs à travers Fonared. Par rapport à ma population du sud Ubangi, je les salue d'abord comme les ministres provinciaux de l'agriculture. Et aussi, je leur demande de ne pas détruire l'écosystème. Poser les actes qui concourent à la protection de l'environnement, que chacun, chaque jour qui se réveille le matin, si l'on a occasion, qu'il plante au moins un arbre.
Autre participant, autre problème, la société civile a aussi été invitée à ce forum. Nene Mainzana, journaliste environnementaliste à la chaîne nationale de la RTNC, a pour sa part décrié la manière dont sont gérés les fonds destinés au programme RED+.
Ce que nous décrions, les différents financements sont mis à la disposition du pays, mais ce n'est pas le pays qui manage ces fonds. Ce sont des fonds qui sont gérés par les agences fiduciaires des Nations Unies, la Banque mondiale, la FAO et tant d'autres. Mais comment pouvez-vous évaluer un pays si le pays n'arrive pas à gérer lui-même les fonds?
Mais pour le fonds NARED, l'objectif du forum a été atteint parce que, selon les propres mots de son coordonnateur, Félicien Moulenda, les échanges ont été ouverts et fructueux.
Par ailleurs, les méthodes agricoles non durables comme l'agriculture sur brûlis sont parmi les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts en RDC. Pour la FAO, la solution à ce facteur passe par 3 projets. C'est comme l'explique le conseiller technique principal au projet du système national de surveillance des forêts en RDC, Dr Tieto Ndikuma Genge, au micro d'Honoré Missenga Kalala.
La réponse de la FAO, c'est qu'on ne peut pas gérer durablement l'agriculture sans passer par une politique durable. Et c'est pour ça que nous accompagnons le gouvernement pour pouvoir justement mettre en place des politiques agricoles durables axées sur la sédentarisation, mais également la promotion des outils qui peuvent alerter les autorités sur les points chauds de la déforestation et la dégradation. La deuxième réponse de la FAO, c'est à travers les outils. Comment est-ce qu'on peut alerter le ministère et le gouvernement de partie prenante sur les causes de la déforestation et la dégradation qui augmentent les effets de serre? La troisième réponse réside bien sûr dans la vision intégrée. Comment est-ce qu'on doit intégrer dans les programmes PIRED l'agriculture, l'aménagement du territoire, la gouvernance, mais aussi et surtout comment est-ce qu'on doit promouvoir les semences de qualité pour que les paysans, les bénéficiaires, ils soient de qualité. Et enfin, comment est-ce qu'on doit avoir des outils au niveau national, notamment les systèmes de surveillance qui permettent de renseigner justement où est-ce que nous en sommes sur le taux de déforestation. Comment est-ce qu'on peut sédentariser pour que l'agriculture ne soit pas un frein, mais soit une opportunité pour le développement, mais également soit une opportunité pour avoir plus de forêts à travers l'agroforesterie, mais aussi et surtout à travers les semences de qualité qui peuvent avoir de nouveaux rendements plus élevés sans pouvoir avoir de grandes superficies emblavées. Le troisième élément dont on doit tenir compte, c'est les produits forestiers non ligneux. Il y a les champignons, il y a l'ognéthome, il y a les chenilles. Tout ça, ce sont des éléments qui peut-être échappent au département officiel du ministère de l'Agriculture et qui représentent un enjeu économique et social important, mais qui ne sont pas pris en compte dans la comptabilisation nationale des produits agricoles. Et nous devons pousser à travers ces projets d'élargir justement la contribution de ces produits forestiers non ligneux dans cela. Et c'est ça le rôle de la FAO au niveau national, au niveau sous-régional, puisque c'est la FAO qui a produit les directives sous-régionales, ces produits forestiers non ligneux dans les pays du bassin du Congo, et on doit les appliquer au niveau de la RDC dans tous ces programmes intégrés de la RED Plus dans ce pays.
Nous reviendrons sur le Forum national du Fonds NARED dans la rubrique Décryptage avec son coordonnateur adjoint. Les structures nationales anticorruption veulent fédérer et coordonner leurs actions de lutte contre la corruption en RDC en vue de répondre à la vision anticorruption du chef de l'État, cela sous la houlette de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle et en partenariat avec la Coordination pour le changement des mentalités. C'est bien le sens de l'atelier d'information et d'échange organisé jeudi à Kinshasa par l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Les participants ont convenu de mettre en place un projet de coordination de lutte contre la corruption avec l'appui du PNUD. Le point avec Jean-Pierre Elali Koko.
2 heures d'échange et de réflexion ont suffi pour mettre d'accord les ONG, les associations de la société civile, des institutions nationales de lutte contre la corruption sur la nécessité de travailler en synergie. Les conseillers spéciaux du chef de l'État en charge des coordinations du changement des mentalités.
À inviter toutes les structures qui œuvrent en cet objet social-là, qu'avec le soutien du PNUD, pour que nous puissions voir comment est-ce qu'on peut coordonner toutes ces actions-là afin que la lutte contre la corruption commence à produire les effets.
Pour y arriver, les participants ont convenu de mettre en place une commission préparatoire qui aura pour mission de mettre en place un projet de coordination de lutte contre la corruption. Les travaux de cette commission seront axés sur 4 thématiques, à savoir prévention, détection et investigation, répréhension, recouvrement et gestion des avoirs illicites. Maître Kapiamba de la Cage s'est dit satisfait du résultat de l'atelier.
Sentiment de satisfaction, d'abord le fait que l'initiative ait été prise par le CEP en partenariat avec la coordination pour les changements des mentalités afin de fédérer toutes les structures qui travaillent dans le secteur de la lutte contre la corruption.
Il faut noter que la corruption est un mal qui gangrène toutes les composantes de la société congolaise. Dans son classement de 2018, Transparency International place la RDC à la 168e place sur près de 200 pays le plus corrompus de la planète.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comme dit précédemment, en marge du premier forum du Fonds national RED plus FONARED, le coordonnateur adjoint de cette structure, Victor Kabengele, a fait part de la perte continue d'importants pannes du couvert forestier de la RDC. C'était au cours d'un entretien que ce dernier a accordé à Honoré Missenga Kalala. Nous vous proposons cet entretien.
Victor Kabengele, bonjour.
Bonjour.
FONARED, dans un premier forum national, après 3 ans d'activité, d'abord, c'est quoi FONARED et quelle est sa mission?
Bon, le Fonds RED, c'est le diminutif de Fonds National RED. Sa mission, c'est en fait le bras financier, n'est-ce pas, de la stratégie. Le fonds a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie nationale RED en pourvoyant les moyens nécessaires pour cette stratégie qui avait été déclinée en un plan d'investissement. Comme vous le savez, la stratégie nationale RED, c'est elle qui définit la vision du gouvernement dans la gestion durable de ressources forestières en RDC. D'où la naissance du Fonds national RED.
Pendant les 3 années de vos activités, vous avez été impliqué dans plusieurs domaines liés à la gestion des forêts.
Bien sûr, parce que comme nous l'avons dit et répété, nous ne pouvons réussir, n'est-ce pas, à bien gérer nos forêts que lorsque nous nous attaquons dans les secteurs qui impactent sur la forêt. Je prends un exemple. Nous ne pouvons réussir, n'est-ce pas, à assurer que nos forêts restent debout, nos arbres restent debout, que lorsque nous allons régler le problème de l'énergie, lorsque nous allons pouvoir convaincre, n'est-ce pas, que l'énergie de cuisson ne peut plus venir de Makala, ne peut plus venir, n'est-ce pas, des arbres qu'on coupe et qu'on carbonise. Donc, lorsque nous mettons de l'argent dans le secteur de l'énergie, par exemple, pour avoir un mix énergétique qui prend en compte le gaz de ville, par exemple, et qui fait la promotion, par exemple, du gaz de ville, nous allons petit à petit découpler l'énergie de cuisson de la forêt. La même chose que l'agriculture. Lorsque nous allons faire en sorte que l'agriculture qu'on pratique ne soit plus une agriculture sur brûlis, que ce ne soit plus une agriculture basée sur la pluie, mais une agriculture moderne, vous comprenez qu'à ce moment-là, on aura beaucoup gagné et on aura réduit l'impact, n'est-ce pas, de l'agriculture sur la forêt, tout en assurant une agriculture moderne, modernisée et qui répond justement aux besoins de la population et qui s'attaque au problème de l'insécurité alimentaire.
Oui, il y a aussi l'exploitation forestière, industrielle ou artisanale.
Exact, parce que même dans le secteur même propre de le secteur forestier, nous devons y travailler. Donc, comme vous le dites, l'exploitation artisanale, qui est légale dans une certaine mesure, mais dans l'état actuel des choses, comme elle n'est pas contrôlée, elle devient plus ou moins illégale parce qu'elle a débordé donc les limites acceptables. Vous voyez. Donc, nous devons assurer une gouvernance forestière qui nous permet de faire en sorte que la loi est appliquée dans le secteur forêt et qu'un industriel a un plan d'aménagement lorsqu'il a une concession forestière et qu'il respecte ce plan d'aménagement, qu'il ne se mette pas à couper à tort et à travers et après quelques années, il ne reboise pas. Et voilà, après quelques années, il plie bagage et il nous laisse, n'est-ce pas, une terre complètement défrichée.
Oui, le FONARED a aussi regard sur le planning familial. Est-ce qu'il y a un lien entre le planning familial et la gestion durable des forêts?
Il y a un lien certainement qui existe parce que le problème de la RDC, c'est pas que les espaces manquent. Le problème de la RDC, en ce qui concerne la démographie, je veux dire, c'est qu'il y a une inégalité, n'est-ce pas, de répartition des populations dans les zones de concentration. Les populations se concentrent souvent et en grand nombre dans des zones chaudes de déforestation et qui créent alors un problème. Il faut nourrir les gens, il faut plus d'espace et tout ça. Donc c'est un peu ça le problème. Le problème maintenant, c'est comment est-ce que nous pouvons aider la population, pas seulement avoir, n'est-ce pas, à gérer bien la planification familiale, mais à comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés dans des points chauds où ils sont installés.
Quel est l'état des lieux de l'espace forestier aujourd'hui en RDC?
Bon, à l'état des lieux, je crois que la RDC perd chaque jour des forêts. On peut le dire, on ne doit pas se le cacher, n'est-ce pas? Entre la période 1990 et 2010, sur 20 ans à peu près, la RDC a perdu plus de 10 millions d'hectares de forêts. C'est énorme, c'est énorme. Donc, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour stopper cette dégradation. Hier, on disait que la RDC, le couvert forestier a été à 67% du territoire national. Aujourd'hui, on n'est plus à 67%. Ça veut dire que chaque jour qui passe, les forêts sont en train de partir. Aujourd'hui, si vous parcourez, n'est-ce pas, la route de Bas-Congo, vous n'avez qu'à voir vous-même. Vous comprenez? Donc, nous devons travailler. Nous devons travailler de sorte que nous puissions laisser à nos enfants et aux enfants de nos enfants le même bien-être que nous, nous avons vécu. Parce que la forêt, ce n'est pas seulement pour donner le macala. La forêt a des valeurs écosystémiques plus importantes. Parce que là où il y a les forêts, il y a une meilleure régulation, n'est-ce pas, des pluies, il y a une meilleure régulation, n'est-ce pas, des températures, la protection des sols et la protection des cours d'eau. Prenez le cas du lac Tchad. Aujourd'hui, tout le monde, n'est-ce pas, se plaint que demain, la guerre qu'on aura, c'est la guerre, n'est-ce pas, de l'eau. Pourquoi? Parce que on a coupé, on a tout déforesté. Et le lac Tchad, qui est aussi grand qu'un fleuve, aujourd'hui, c'est un petit ruisseau, il n'existe pratiquement plus. Et les gens ont besoin de l'eau. Et c'est ça le grand problème. Or, la forêt en RDC, c'est, disons, une gigantesque biodiversité, parce que c'est surtout et surtout l'habitat naturel, n'est-ce pas, de la biodiversité animale que comporte notre pays. Vous voyez? Alors, si vous détruisez cet habitat naturel, il va se reconstituer comment? Donc, nous allons perdre des espèces comme le bonobo, qu'on ne trouve qu'en RDC, par exemple. Vous comprenez? Et en même temps aussi, c'est là où l'homme trouve sa nourriture, il trouve sa pharmacopée, n'est-ce pas? Et si vous détruisez ça, demain on n'aura pas ça, et demain on aura des problèmes climatiques beaucoup plus graves dont on ne saura pas avoir les moyens, n'est-ce pas, de s'adapter. Et le programme que nous avons par exemple avec AFI, dans le cadre du FONARED, c'est d'arriver à stabiliser notre couvert forestier à 63,5% à l'horizon 2035. Et là, avec des actions que nous mettons en place et nous finançons à travers, n'est-ce pas, FONARED.
Merci, monsieur le coordonnateur adjoint.
Je vous en prie, merci.
Ouvrons cette page de nouvelles en bref avec la MONUSCO à Djougou dans l'Ituri. Depuis l'attaque le 16 janvier dernier d'une dizaine de villages du territoire de Djougou par des hommes armés non identifiés, la mission onusienne a rapidement déployé ses soldats afin de faire fuir les assaillants et aussi décourager toute éventuelle récidive. Selon des sources locales, au moins 3 personnes ont été tuées et plus de 400 maisons incendiées, de même qu'un grand nombre de personnes déplacées ont fui vers le sud-ouest de Djougou centre suite à ces violences. Autre action de la mission des Nations Unies au Congo, cette fois à Goma dans le Nord Kivu, c'est celle de ces casques bleus indiens. Ils ont sauvé plusieurs vies des civils ainsi que leurs biens en éteignant un incendie qui s'était déclaré le mercredi 22 janvier dernier dans une zone civile de l'aéroport international de Goma. Enfin, dans un tout autre volet, $1 milliard américains, c'est l'enveloppe que la Banque mondiale apporte à la RDC pour appuyer la gratuité de l'enseignement de base. Le lundi dernier, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, Jean-Christophe Carré, a discuté avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba des modalités de cet appui. Pour le représentant de la Banque mondiale, une partie de l'argent devra notamment permettre au gouvernement congolais de construire en urgence des nouvelles salles de classe nécessaires pour absorber l'afflux important d'élèves supplémentaires enregistrés à la suite de la gratuité.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invitée ce dimanche est Madame Corinne Dao, directrice résidente de Oxfam en RDC. Cette ONG internationale vient de publier en marge du Forum économique mondial tenu à Davos en Suisse un rapport sur les inégalités dans le monde. D'un côté, une poignée de personnes qui s'approprient les richesses. De l'autre, la majorité, plus de 6,9 milliards de personnes, baignent dans la pauvreté. La RDC et l'Afrique en général n'échappent à cette réalité. Madame Dao répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Madame Corinne Ndao, bonjour.
Bonjour, Monsieur Elali.
Oxfam vient de publier en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse un rapport sur les inégalités dans le monde. En bref, le fossé se crée davantage entre riches et pauvres. Quels sont les causes de cette disparité, madame?
En effet, le 20 janvier 2020, Oxfam, au niveau global, a lancé son rapport phare pour rappeler aux puissants et aux riches de ce monde qu'il existe une inégalité qui est inacceptable. L'inégalité au niveau mondial se creuse, ce qui veut dire que les personnes les plus vulnérables, surtout dans nos pays africains, sont de plus en plus sujettes à la pauvreté sous sa forme la plus abjecte. Ceci est inacceptable. Je vais partager avec vous des statistiques qui vous feront prendre conscience de l'ampleur de cette inégalité qui nous empêche de vivre dans le monde auquel nous avons droit. Est-ce que vous savez, Monsieur Elali, que c'est choquant de savoir que les 22 hommes les plus fortunés du monde possèdent plus que l'ensemble de la population féminine pour tout le continent africain. Non moins choquant, les 1% les plus riches de la planète possèdent deux fois plus que les richesses cumulées de 6,9 milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale.
Et d'où vous tirez ces statistiques ?
Ces statistiques sont vérifiables et sont issues des recherches qui sont consignées dans le rapport justement sur les inégalités publié de manière annuelle par Oxfam au mois même où les puissants de ce monde se rencontrent pour devenir encore plus riches et où il faut que nous, Oxfam, nous puissions leur faire prendre conscience de leurs responsabilités morales, mais également mettre nos dirigeants face à leurs responsabilités, parce que cela est inacceptable.
Si l'on examine bien, madame, les plus riches sont dans le pays du Nord, plus pauvres à l'hémisphère sud, surtout en Afrique, vous l'avez dit. Que faire pour qu'on puisse avoir un peu d'équilibre, tant soit peu?
Monsieur Ali, il va sans surprise de constater que les pays africains, l'hémisphère sud, sont les plus affectés, parce que ces inégalités sont alimentées et entretenues par des mauvaises politiques imposées à nous par nos dirigeants. Et ces politiques inadaptés permettent aux pays de l'hémisphère nord où il y a une meilleure gouvernance d'accumuler davantage de richesses. Pour éliminer cette injustice sociale, c'est très simple. Il faut qu'on puisse ensemble faire pression sur nos gouvernements pour s'assurer qu'ils nous soient redevables et pour s'assurer que les bonnes politiques soient mises en œuvre. Et Oxfam a la mission d'accompagner les populations au niveau global et singulièrement dans notre pays, la RDC, pour que cette redevabilité soit effective, pour s'assurer que les politiques qui soient mises en œuvre permettent à tout le monde, sans exception, de jouir de manière égalitaire des ressources qui sont générées dans notre pays, la RDC.
Ces dirigeants sont pour la plupart sourds à l'appel soit de l'Oxfam, soit d'autres organisations humanitaires.
C'est pour ça que Oxfam, de concert avec l'ensemble des organisations humanitaires et l'ensemble des organisations de la société civile, que ce soit en RDC ou au niveau global, mutualise leur plaidoyer. Parce qu'il faut que ce soit une action d'envergure. Il faut que d'abord le citoyen lambda sache qu'il a le droit de tenir les représentants, les responsables, ceux à qui nous avons délégué le pouvoir public, redevables à leur action. Pour s'assurer que les actes qu'ils posent sont des actes qui nous permettent de jouir de manière égalitaire des ressources générées par nous.
Et puisque vous parlez de la RDC, la réalité décrite dans ce rapport n'épargne pas ces pays. Hein. Quel est, selon l'OSFAM, l'état des lieux de ces inégalités en République démocratique du Congo? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de les réduire tant soit peu?
Les inégalités en RDC sont synonymes de l'état qu'on remarque dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Je vais me référer à un indice qui est l'indice pour le développement humain qui est produit par les Nations Unies, qui cette année 2019 ne s'est pas juste contenté de mesurer le niveau de pauvreté, mais également intégré un indice de la répartition des richesses au sein des pays pour qu'on puisse avoir un indice de l'inégalité. Si on se base sur ce rapport, en 2019, notre pays, la RDC, s'est classé à la 179e place sur 189 pays qui ont été inventoriés.
Ce qui n'est pas vraiment encourageant.
Ceci n'est pas encourageant. Ceci montre également que nous devons davantage accentuer notre pression sur les dirigeants pour que les bonnes politiques soient mises en œuvre, que ce soit au niveau macroéconomique, créer un cadre qui permet le développement d'un secteur privé, qui assure à notre jeunesse un emploi stable et décent, créer un cadre fiscal qui permet de collecter des revenus, que l'ensemble des populations, surtout les plus riches, puissent payer leurs impôts pour que cet impôt puisse être dirigé vers la mise à disposition d'infrastructures de base, c'est-à-dire améliorer notre santé, améliorer l'accès à l'eau et aussi améliorer l'accès aux droits humains, ce qui est un droit universel et que nos dirigeants se doivent de mettre à notre disposition.
Le rapport met un accent particulier sur la situation des femmes. Beaucoup de femmes sont victimes d'un système économique discriminatoire, vous l'avez souligné, qui les prive notamment de l'emploi et même des conditions de vie.
Ceci est, à mon sens, l'aspect le plus choquant du rapport des inégalités mis en lumière par Oxfam. Je vous le rappelle, cette statistique qui est honteuse. Les 22 hommes les plus fortunés au monde possèdent plus que l'ensemble de la population féminine d'Afrique. Ceci est dû essentiellement au fait que la contribution des femmes à l'accumulation des richesses dans nos pays n'est pas comptabilisée. Lorsqu'elle est comptabilisée, elles sont soit sous-payées ou payées de manière informelle qui ne leur permet pas de pouvoir réclamer le droit à cette autonomie financière qui leur revient. Les femmes sont affectés de manière disproportionnelle aux effets néfastes de la répartition inégalitaire. De manière directe, puisque la plupart travaillent au service de leur famille, leur contribution n'est pas répertoriée, rémunérée. À cela s'ajoute le fait que les riches n'étant pas taxés, nos gouvernements n'ont pas suffisamment de recettes fiscales pour améliorer l'accès aux services sociaux de base comme l'accès à l'eau, qui fait que le travail des femmes est rendu encore plus pénible et plus précaire. Cela les rend encore plus vulnérables. Donc l'inégalité affecte de manière disproportionnée les femmes et ceci est encore une injustice de plus en plus choquante et qui a malheureusement trait à s'accentuer au fil des années.
Quel est votre dernier mot ?
C'est d'abord que l'inégalité, la pauvreté est une injustice. Mais cette injustice peut être combattue, cette injustice peut être corrigée si nous œuvrons ensemble. Il y a quand même des lueurs d'espoir. Notre génération est celle qui a vu l'extrême pauvreté diminuer de moitié en 15 ans. Ce qui veut dire que nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Et à Oxfam, nous sommes déterminés plus que jamais de œuvrer au sein des populations congolaises, surtout les plus vulnérables, pour que nos gouvernements soient plus redevables, pour que les ressources qui sont accumulées et disponibles au sein de notre pays soient reparties de manière équitable à l'ensemble de la population. Nous devons mettre ensemble fin aux injustices sociales, notamment en termes de répartition des revenus.
Merci beaucoup, madame.
Je vous remercie.
Réconciliation et justice, c'est la formule que propose une équipe d'experts internationaux pour fermer définitivement la page de la crise au Kasaï. Cette équipe séjourne à Kinshasa depuis le 13 janvier dernier et est venue accompagner les autorités congolaises dans la mise en œuvre des recommandations formulées par d'autres experts de l'ONU, dont celle de la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. L'un des deux experts, Bakre Wali, a expliqué leur mission au micro de Jacques-Yves Molima.
Ce qui s'est passé au Kasaï a été absolument horrible en termes de personnes qui ont été exécutées, souvent par décapitation, en termes de villages brûlés, de femmes violées et même de mise en esclavage forcée de femmes et d'enfants. L'enquête qui avait été établie par la première équipe en 2018 a donc qualifié qu'il y avait eu plusieurs crimes contre l'humanité qui ont été commis au Kasaï et que la réponse à ces crimes demande la justice. Mais nous savons que déjà en situation normale, la justice souffre d'un déficit d'effectifs et d'efficacité. Nous ne pouvons pas amener tous les coupables devant le juge. Il n'y a même pas assez de juges pour les juger. Alors on a reconnu qu'il faut à la fois poursuivre des cas emblématiques, des personnes qui ont été identifiées comme coupables de crimes qui ont particulièrement choqué. Mais il faut aussi un système qui puisse rendre compte du besoin de justice sans que pour autant cela passe par les cours et tribunaux. C'est en cela que la réconciliation, une commission de vérité est indispensable.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche est en rapport avec les crimes commis en RDC et l'impunité. Elle a été posée à Mme Leila Zerougui, mercredi 15 janvier, à la conférence de presse des Nations Unies. Suivez.
Nikez Muzani, africeco.ch. Vous êtes en train de déplorer qu'un jour après votre départ, vous n'aimeriez pas entendre que bon, le conflit a repris en RDC. Nous avons reçu des experts de l'ONU, entre autres Maître Bakre Wali Ndiaye, Mme Sheila, qui nous ont remis un rapport sur le Kasaï où vous êtes en train de préparer les DDR. Il y a encore un autre rapport des experts de l'ONU pour l'Est. Tous ces rapports évoquent crimes contre l'humanité. Mais jusque-là, nous ne voyons aucune action contre les auteurs de ces crimes, madame.
La RDC est un des rares pays en Afrique qui a un outil, je parlais tout à l'heure de la chaîne pénale militaire, qui juge non seulement les groupes armés, mais qui juge aussi les généraux congolais. Vous avez parlé de Kasaï. Au Kasaï, il y a quand même une procédure qui est en train de se mener. Le gouvernement congolais a accepté l'appui du Haut Commissariat des Droits de l'Homme pour justement rassembler des preuves. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons renforcer encore davantage la justice, y compris civile. Comme ça, même si des gens quittent le groupe armé ou quittent, ils peuvent être jugés par la justice civile. La RDC a ratifié tous les instruments internationaux de lutte contre l'impunité, y compris la Cour pénale internationale, et des Congolais ont été jugés par la Cour, condamnés et ont purgé leur peine. D'autres sont en train d'être jugés. Donc, dire que rien n'a été fait pour lutter contre l'impunité, ce n'est pas vrai. Maintenant, est-ce qu'on a juger tous ceux qui méritent d'être jugés, bien sûr que non. Et il faut continuer à rassembler les preuves, à travailler pour lutter contre l'impunité, à rétablir les victimes dans leurs droits et surtout, faire en sorte que ça ne se reproduira plus.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À présent, notez dans votre agenda le 27 janvier, journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste, et le 2 février, journée mondiale des zones humides. Vous avez compris, c'est la fin de cette émission présentée par Belinda Bossouma avec le concours technique de Mimi Kindou. Coordination, réalisation et reportage, Jean-Pierre Lali Koko, Honoré Missenga Kalala également reportage. Toute l'équipe vous remercie de votre aimable attention. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de Magazine des Nations Unies. Merci de rester de nous.